Je sais pas qu'est-ce que vous avez évoqué le dernier chant qu'on a pris. Toute ma vie l'a donné pour toi. Tu peux me remettre le chant? Voilà, ben voilà. Et après, ce qui vient après, voilà. Et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher, aucune montagne ne pourra m'arrêter. Alors je ne sais pas quel mot vous vient quand vous chantez ça. Moi, le mot qui me vient, c'est le mot persévérance. Voilà, persévérance. Et ce matin, je voudrais vous parler de persévérance. En fait, ce qu'on va voir ce matin, c'est quelque chose qui est fort sur mon cœur. Depuis toute cette semaine, ça m'a travaillé. Et je me dis que peut-être quelqu'un, ce qu'on va voir, a besoin de l'entendre. Peut-être tu as besoin de l'entendre. Peut-être c'est que pour une personne, ce qu'on va voir. Peut-être pour plusieurs, je ne sais pas. Et même si peut-être quelqu'un se dirait, ben moi, ce matin, ce que j'ai entendu ne me concerne pas, peut-être qu'aujourd'hui, ça ne te concerne pas, mais peut-être que demain, ça te concernera. Et là, ça sera bon de s'en souvenir et de s'en rappeler. Voyez? Alors, en parlant de persévérance, je ne vous apprendrai rien en vous disant que la Bible nous invite à persévérer dans tout un tas de domaines. Voyez? Tout un tas de domaines. On sait par exemple que la marque de fabrique des premiers croyants, des premiers chrétiens, c'était la persévérance. Acte 2, verset 42, ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans l'enseignement des apôtres et dans les prières. Voyez? Et quand vous lisez le livre des Actes des apôtres, on se rend compte que c'était la marque de fabrique des croyants, des chrétiens. La persévérance. Hein? Il pouvait y avoir la persécution, il pouvait y avoir les pressions, mais persévérer. J'aimerais t'encourager, mon frère, ma soeur, ce matin. Persévère. Voilà. Hein? Même si c'est difficile, comme on l'a chanté, hein? Même si ces paroles peut-être nous concernent particulièrement ce matin, j'aimerais t'encourager à persévérer, comme ces premiers croyants. Dieu ne les a pas abandonnés, il ne va pas t'abandonner. Alléluia. Je note aussi que dans l'Épître aux Hébreux, il est souvent, souvent question de persévérance. Je me dis que quelque part, c'est un message que l'auteur voulait faire passer. Par exemple, je vous donne quelques références. Hein. Il est dit ceci, Hébreux 10, verset 36, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Vous voyez, vous avez besoin de persévérance. On n'en a pas besoin ce matin? Si, hein? Parce que ce n'est pas notre nature, hein? Surtout aujourd'hui où il faut appuyer sur un bouton, vous voyez, donc c'est vite fait. Hein. Appuyer sur un bouton, tchic, un clic, tchic. Quand on nous parle de persévérance, on a un peu plus de mal. Hein, voyez. Et un petit peu plus loin, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci, ça c'est le verset qu'on a vu la semaine dernière. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. » Dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Et encore un petit peu plus loin, l'auteur des Hébreux dit « persévérer dans l'amour fraternel ». Vous voyez, la persévérance, ça revient sans arrêt dans le livre des Hébreux. Jésus lui-même a parlé de ça. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voyez. Et l'apôtre Paul va même pousser le bouchon plus loin en parlant de Dieu comme étant le Dieu de la persévérance. Romains 15, verset 5. Voyez, le Dieu de la persévérance. C'est vrai que Dieu est persévérant. Heureusement, parce que peut-être on ne serait pas là ce matin. Mais ce matin, ce n'est pas de cette persévérance-là dont j'aimerais parler. J'aimerais m'arrêter sur une autre forme de persévérance dont la Bible parle et qui n'est pas bonne. Et si j'avais un titre à mettre à ce message, ça serait celui-là, la mauvaise persévérance. Parce qu'il y a une mauvaise persévérance. Alors vous allez me dire, ah bon, c'est quoi cette mauvaise persévérance? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir ce matin. Et j'aimerais dire d'emblée en commençant que si peut-être, mon frère, ma soeur, ce matin, tu es dans une mauvaise persévérance, alors ce matin, ce message, il est pour toi. Peut-être on n'en est pas conscient, peut-être on ne le réalise pas, mais peut-être qu'en le formulant, on va dire « Ah oui, c'est vrai, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. » Le but de ce message, ce n'est pas d'accabler, ce n'est pas de juger, c'est au contraire de dire « Seigneur, aide-moi. » Alors regardez, on va lire un premier texte dans le livre des Juges, chapitre 2, verset 18. Livre des Juges, chapitre 2, verset 18, vous connaissez un petit peu le contexte du livre des Juges. Ce n'est pas une bonne période pour le peuple d'Israël. Hein. En ce temps-là, il n'y avait point de roi, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et vous savez qu'en général, quand chacun fait ce qui lui semble bon, c'est pas bon. C'est souvent l'anarchie. Hein. Et on voit que ce temps des Juges a été une époque particulièrement difficile pour le peuple d'Israël. On voit que ça a été une période sombre. Et pour cause, et là il dit ceci, et il y a quelque chose qui pour moi résume bien le livre des Juges, il dit ceci, Juges chapitre 2, verset 18, « Lorsque l'Éternel, en parlant du peuple d'Israël, leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge. » et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Écoutez bien le verset 19. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et écoutez bien, c'est ça qui m'intéresse, moi je l'ai souligné dans ma Bible. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même enseignement, endurcissement, pardon. Ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Et vous avez déjà ici un premier exemple de ce que j'appelle la mauvaise persévérance. Voyez. Pourtant, quand vous lisez le livre des juges, vous vous rendez compte quand même que Dieu est bon. Hein. Ne serait-ce que dans ces deux versets, chaque fois que Dieu suscitait un juge, un homme, une femme, alors vous vous rappelez, il y a quelques juges qui sont célèbres. Hein. Il y a eu Samson, c'était pas parfait ces juges. Hein. Samson, vous avez Gédéon qui avait peur, vous avez Déborah, vous avez tout un tas d'hommes, de femmes que Dieu a suscité là. Et Dieu était avec lui, libérer le peuple d'Israël de l'oppression des Madianites, des Philistins, etc., etc. Chaque fois, le Seigneur bénissait, chaque fois le Seigneur les fortifiait, leur faisait du bien. Mais chaque fois que le juge mourait, ils retombaient dans leur travers, et la Bible nous dit que finalement, ben, ils persévéraient dans la même conduite et dans le même endurcissement. C'est terrible, mauvaise persévérance. Et quand je lisais ça, je n'ai pas pu m'empêcher d'essayer d'un petit peu de retranscrire ça à aujourd'hui. Peut-être pas tout à fait dans les mêmes circonstances, mais quelque part ça m'a interpellé, parce que c'est des choses que j'ai vues, que vous avez certainement vues. Alors ici, il est dit que les juges se succédaient les uns derrière les autres, et c'est vrai, vous avez qu'à lire le livre des juges, on voit que ça se succédait, certains étaient un peu, avaient des, entre guillemets, des règnes un peu plus longs que les autres. Mais je me faisais un petit peu cette comparaison, c'est comme aujourd'hui, dans les églises, les pasteurs se succèdent les uns derrière les autres, voyez. Un arrive, l'autre s'en va, il y en a qui restent plus longtemps, d'autres moins longtemps, voyez. Parfois on se rend compte qu'il y a des frères et des sœurs, les pasteurs peuvent se succéder, ils ne changent pas. Alors des fois on peut se dire, oui mais avec ce pasteur-là, ils s'entendent moins bien, c'est ça quoi le moins, ceci, cela. Mais vous rendez compte qu'un autre arrive, c'est toujours pareil. Vous rendez compte qu'un autre arrive, c'est toujours pareil. Voyez, on est toujours dans le même état d'esprit, on est toujours dans la même façon de fonctionner, dans le même entêtement, dans le même endurcissement, dans les mêmes raisonnements, et on n'en sort pas. Et quelque part, on est un peu comme à cette époque, dans une mauvaise persévérance. Voyez, je crois personnellement que la vie chrétienne, c'est une vie où Dieu nous change et nous transforme. Je le crois de tout mon cœur. Sinon, c'est de la religiosité. Si depuis que je connais le Seigneur, il n'y a pas eu de changement en moi, il y a toujours le même caractère, il y a toujours je tombe toujours dans les mêmes ornières, etc., etc., c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que quand on vient au Seigneur, bien sûr, on vient comme on est, brut, tel que je suis, hein, comme dit ce chant, tel que je suis, je viens à lui, hein, mais au fur et à mesure que j'avance avec Dieu, Dieu me change, Dieu me transforme. Vous voyez, je suis plus le même. Et au bout de, déjà, ne serait-ce qu'au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, je peux plus être le même. Hein, on serait surpris de voir un petit gamin qui a 5 ans, a toujours la même forme quand il est né. On dirait, il y a un problème. Il n'a pas grandi, il faut aller consulter, vous voyez. Mais spirituellement parlant, c'est pareil. Un enfant de Dieu qui a pris quelques mois, quelques années de conversion, n'a pas changé, je ne peux pas me contenter de me dire, oh, mais il aime le Seigneur. Comme une fois on m'a dit ça. Oh, mais vous savez, il est comme ça, mais il aime le Seigneur. Non, Dieu nous change. Dieu nous transforme, voyez. Et il n'y a rien de plus terrible que de voir un enfant de Dieu, un croyant, qui ne change jamais. Change jamais. Les juges changeaient, mais ils étaient toujours pareils. Ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Et parfois, les serviteurs de Dieu peuvent défiler les uns derrière les autres. Ce n'est pas un problème de serviteur de Dieu, c'est un problème de cœur. Je veux bien que des fois, et ça peut arriver parce que les serviteurs de Dieu, c'est des hommes, ils ne sont pas parfaits, voyez, que des fois, ça puisse pas coller avec un. Ça peut arriver, ça peut arriver. Faut pas avoir honte de le dire, ça peut arriver. Mais quand c'est pareil avec tous, c'est comme forcément à un moment donné, il y a un problème. Et regardez, on ne va pas s'arrêter que sur cet exemple-là, mais j'en ai relevé 3-4 autres. Il y en aurait des tas dans la parole où on voit vraiment de la mauvaise persévérance. Et je crois que c'est là pour nous interpeller. Mardi soir, j'ai parlé d'un roi à La Réunion, le roi Asa. Alors peut-être que le roi Asa, ça ne vous dit pas grand-chose. On va lire quelques textes. Ce qui est terrible avec ce roi, c'est que quand vous lisez son histoire, vous vous rendez compte que ça a été un bon roi. Il a marché avec Dieu. Vraiment, il a été une bénédiction pour son peuple. La main de Dieu s'est manifestée. Il y a eu des prodiges, des miracles, des choses qui se sont passées. Et à un moment donné, la Bible nous dit, la 36e année de son règne, il a fait une boulette. La 36e année de son règne. Comme quoi, et j'ouvre une petite parenthèse, peut-être pour les vieux croyants. Quand je dis vieux, ce n'est pas forcément un âge là. Je m'inclus peut-être dedans dans les vieux croyants. Mais mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce qu'on a 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans de conversion qu'on n'a pas besoin de veiller. Hein. Oh, mais moi j'ai de la bouteille. Oh, moi, depuis que je connais le Seigneur, on ne me la fait pas à moi. Ouais. On peut se planter. Hein. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Salomon, à l'époque de sa vieillesse, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et Asa, il va faire une boulette, ça peut arriver. La 36e année de son règne. Donc pendant 35 ans, il a marché avec Dieu impeccable, Dieu l'a béni, je ne dis pas qu'il a été parfait jusqu'à ce moment-là, mais enfin la Bible dirait, et là la 36e année, il fait une boulette et Dieu dans sa grâce va lui envoyer un prophète, va lui envoyer un homme de Dieu. Et mes amis, il va mal le prendre, regardez, on va le lire, 2 Chroniques 16, verset 7. Dans ce temps-là, Hanani, le voyant, l'homme de Dieu, le prophète, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Tu as agi en insensé dans cette affaire, hein, car dès à présent, tu auras des guerres. Et regardez verset 10. Une surprise. Hein. Asa fut irrité contre le voyant et le fit mettre en prison, surprenant quand même, hein, parce qu'il était en colère contre lui et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Laisse-moi le verset s'il te plaît. Donc, quelque part, Dieu va le reprendre, comme ça peut nous arriver avec nous. Hein. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Voilà. Mais plutôt que de, quelque part, de bénir Dieu, de dire, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est vrai que dans le passé, j'ai fait des expériences avec toi. Dans le passé, dans une situation similaire, je me suis appuyé sur toi et tu m'as béni. Seigneur, je ne sais pas ce qui m'a pris, je te demande pardon. La Bible nous dit, il va s'irriter. Je me dis que ça a dû quand même surprendre les gens de son entourage. Hein. Ça a dû surprendre quand même, se dire, mais... Pendant 35 ans, il a été fidèle à Dieu, il a marché avec Dieu, on l'a connu comme vraiment voulant plaire. Et puis là, il a une attitude, c'est bizarre. Les gens n'ont pas dû le reconnaître. Voyez, pas dû le reconnaître. Voyez, c'est comme aujourd'hui, quand des fois, je ne sais pas moi, avec un frère, une sœur, quel qu'il soit, bon, voilà, et puis un jour, vous lui dites quelque chose, et puis, un peu comme là, il ne le prend pas bien. C'est un peu ça, là, vous voyez. C'est un peu ça. Et ce qui m'attriste, c'est la suite. Donc, il est irrité, il opprime le serviteur de Dieu, il le met en prison, il ne s'arrête pas qu'à lui, il opprime aussi quelques-uns du peuple. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils t'ont rien fait, vous voyez? Mais c'est la suite qui m'interpelle. Regardez, verset 11, de Chronique 16, verset 11. Les actions d'Asa, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Et regardez le verset 12. Donc je vous ai dit que quand il s'est planté, il a commis sa boulette, il l'a fait la 36e année. Et là, il est dit, la 39e année de son règne. Donc il y a 3 ans qui se sont écoulés. C'est court et c'est long. Qu'est-ce qu'il fait? Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Moi, je crois que c'était permis par Dieu parce que Dieu voulait qu'il sorte de son état. Et regardez ce qu'il est dit. Même pendant sa maladie, c'est ça qui m'interpelle, même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Alors attention, hein. En faisant pas dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas, quand il dit consulta les médecins, ce n'est pas une interdiction de consulter les médecins. Hein. On comprend bien ce que ça veut dire là. Hein. Mais... Je me dis, mais même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel. C'est-à-dire que 3 ans après, il est toujours dans le même état de cœur. Il est toujours dans la même bouderie. Il boude. il a pas supporté d'être repris par Dieu. Mais je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui lui est passé par la tête, vous voyez, je sais pas pourquoi il a mal interprété ça, pourquoi il l'a mal pris, je sais pas. Mais quelque part, on sent que, bon, allez, on pourrait dire, bon, allez, il était pas bien, mais ça va passer, quoi. Mais on se rend compte que 3 ans après, il est toujours allez, dans une espèce de mauvaise persévérance. Une mauvaise persévérance. Il persévère dans un mauvais état d'esprit, il persévère dans un mauvais état de cœur, il persévère dans de mauvaises dispositions de cœur. Et j'aimerais peut-être dire ce matin, mon frère, ma sœur, si dans un domaine ou dans un autre, Dieu nous a repris, quel que soit le domaine, quelle que soit l'erreur, quelle que soit la faute, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Mais quelque part, ce n'est pas pour nous embêter. C'est pas pour nous humilier que le Seigneur le fait. Au contraire, c'est pour nous relever. C'est pour nous relever, voyez. Et si peut-être Seigneur t'a repris dans un domaine, mais ne persévère pas dans l'entêtement, ne persévère pas dans l'endurcissement, dans la bouderie. Mais au contraire, retourne vers le Seigneur et dire, Seigneur, mais je sais pas pourquoi je suis dans cet état-là, pourquoi j'ai résisté. Parce que c'est de l'orgueil finalement. C'est de l'orgueil, voyez. Mauvaise persévérance. Mais il a mal fini. On n'a pas lu. Vous lirez la fin. Il a fini comme ça. Et pendant 35 ans, il a bien marché avec Dieu. Puis les 3-4 dernières années, ça a été, mais... Et vous dites, mais c'est pas possible. On a besoin de veiller. La mauvaise persévérance. Quand Dieu nous reprend, quelle que soit la façon, quelle que soit la manière, même si on n'aime pas ça, parce que notre nature humaine n'aime pas ça, mais bénissons Dieu. Moi, le Seigneur, ça ne fait pas plaisir. Hein. Mais c'est salutaire. Hein. Que de rester dans la mauvaise persévérance. Et je me dis, mais vous vous rendez compte, même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel. Bon. Je me dis, Et je me dis, mais les gens qui devaient être autour, qui l'ont vu pendant toutes ces années, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qui lui prend? Mais, voyez, mauvaise persévérance. Je pensais à un autre. Et là aussi, c'est un peu plus surprenant. C'est David. David, à un moment donné, il a sombré dans une mauvaise persévérance dans l'histoire du dénombrement. Le dénombrement. Rappelez l'histoire? Et dans l'histoire du dénombrement, il y a un verbe qui est là et qui vraiment m'a arrêté, m'a interpellé. Franchement, quand vous lisez la parole et qu'il y a un mot qui vous arrête, un verbe, enfin, quelque chose qui vous arrête, c'est que Dieu veut vous parler. Quand ça sort là, c'est qu'il y a quelque chose. Et là, en lisant ce texte, je me suis dit, waouh, c'est intéressant. Regardez l'histoire du dénombrement. 1 Chronique 21, Satan se leva contre Israël, il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple, « Allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. » On sent déjà là que je veux savoir combien on est. Voyez, regardez, Joab répondit que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. « Au roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous tes serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela ?» Vous voyez, il sent bien Joab. Joab, il n'a pas toujours été dans le coup. Mais là, il sent bien que là, il y a rien de spirituel dans cette affaire. Il sent qu'il n'y a rien de Dieu dans cette affaire. Vous voyez, et que derrière, il y a comme une espèce de piège de l'ennemi qui est là pour le faire tomber. D'ailleurs, il est dit « Satan excita ». Satan excita, voyez. Alors vous allez me dire, peut-être quelqu'un me dira, oui, mais dans 2 Samuel, il dit que c'est Dieu qui... je crois que Dieu a permis, c'est tout, voyez. Hein, et regardez le verset 4, il est dit, le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Alors nous, on lit ça. Il parcourut tout Israël et il revint à Jérusalem. Ça a dû prendre des semaines et des semaines. Il n'y avait pas les emails à l'époque hein, pour faire le travail. Donc ce qui est dit là, un verset, ça a dû prendre des semaines, peut-être voire des mois, pour faire tout le dénombrement. Mais ce que je voudrais qu'on retienne, c'est ça. Le roi persista. Mauvaise persévérance. Plutôt qu'à un moment donné de se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Il a persisté dans une mauvaise orientation. Dans une mauvaise direction. Et vous lirez la suite au verset 14. Le dénombrement a été fait. Vous lirez, on n'a pas mis le verset. Mais dans cette affaire, il y a eu 70 000 morts. Vous entendez ? C'est pas 7, hein. Même déjà 7, c'était trop. 70 000 hommes qui sont tombés. Et tout ça, pourquoi ? À cause de la mauvaise persévérance de David. Et je me dis, vous voyez, comme quoi, on ne s'imagine pas toutes les conséquences que ça peut avoir quand on persévère dans la mauvaise voie, quand on persévère dans le mauvais sens, quand on persévère dans la mauvaise orientation, quand on persévère dans la mauvaise direction. On ne s'imagine pas tout ce que, toutes les conséquences que ça peut engendrer derrière. Et là encore, mon frère, ma sœur, si Dieu t'a parlé concernant une direction, une orientation, quel que soit le domaine, alors là, le domaine est large, hein, sentimental, financier, spirituel, professionnel, si Dieu t'a parlé, quelle que soit la manière, par la parole, par un don spirituel, par, je sais pas moi, par une prédication, par un frère, par une sœur, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ne persiste pas. Ne persiste pas. Moi, je remarque une chose, et je m'inclus dedans, hein, c'est que souvent, on a du mal à persévérer là où il faudrait persévérer. Par contre, là où il ne faudrait pas persévérer, alors là, on est très fort. Hein. Bon, je ne dis pas vous, moi. Comme ça, je ne veux pas avoir de problème à la sortie. Mais là où il faudrait persévérer, souvent, on a du mal. On laisse vite tomber. Et là où il ne faudrait pas persévérer, alors là, c'est dingue. C'est la nature humaine. Mais si Dieu nous a parlé, si Dieu t'a parlé, et qu'au fond de ton cœur, tu sens... Mais ne persiste pas, quoi. C'est important. C'est important. Pour moi, il y a quelque chose de très important. Quand on demande au Seigneur quelque chose, quel que soit le domaine, quel que soit ce qu'on demande, et alors je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, comment ça fonctionne pour vous, mais pour moi, un signe qui est important, c'est paix ou pas paix. Est-ce que j'ai la paix ou est-ce que je ne l'ai pas ? Si j'ai pas la paix, si hop, ou du moins on met un peu en stand-by, on attend, ou voilà, parce que voilà. Mais si y a la paix, gloire à Dieu. Même si autour on peut vous dire ce qu'on veut, on dit non, mais tu sais, si y a la paix, gloire à Dieu, cette paix surnaturelle, vous pouvez pas l'expliquer pourquoi. Vous êtes tranquille, voilà, et puis de toute façon ça va se vérifier, hein, les choses vont s'ouvrir. Là vous dire c'est bon, gloire à Dieu, c'est ça confirme ce que je ressentais dans mon cœur. Mais s'il n'y a pas la paix, il vaut mieux, voyez. David persista, et cette affaire elle a été terrible au sein du peuple d'Israël. Pourtant il y avait Joab qui était là, qui lui a dit mais ne fais pas ça, mais il a senti, voyez, c'est important, voyez, mauvaise persévérance. J'ai noté aussi, j'aurais pu parler aussi de Caïn. Caïn, il a persévéré dans la justification de ses actes, dans ses mauvaises réactions, dans ses mauvaises attitudes. Voyez, Dieu lui parle. Alors bon, bien sûr qu'à la base, il y a des trucs qu'il n'a pas compris. Dieu qui porte un regard favorable sur l'offrande de son frère et pas sur la sienne. Alors bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, je ne vais pas m'arrêter là-dessus, mais il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Et vous rappelez qu'il a été irrité, ça l'a énervé, ça l'a agacé. Et Dieu est bon, il va venir le trouver. Caïn, le péché se couche à ta porte, ses désirs se portent vers toi. Hein? Mais toi, domine sur lui, domine sur le péché, voyez. Donc, dans sa grâce, lui, vraiment, viens le trouver. Puis vous rappelez un peu ce qui se passe. Il va pas en tenir compte. Il va tuer son frère. Et puis Dieu qui vient derrière, hein, qui va lui dire, où est ton frère ? Et je me dis, mais là, encore là, au travers de cette question, Dieu lui donnait l'occasion de réfléchir. Où est ton frère ? Encore là, il pouvait s'humilier devant Dieu, dire, mais je ne sais pas ce qui m'a pris, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais pourquoi, je ne sais pas. Et là, il pouvait tomber au pied du Seigneur, il pouvait s'humilier devant Dieu. C'était pas trop tard. C'était pas trop tard encore. Il pouvait, même si c'était allé très loin. Mais voyez, qu'est-ce qu'il va dire ? Suis-je le gardien de mon frère ? Vous voyez, mauvaise persévérance. Vous voyez, il continue, on sent qu'il continue. Et puis, vous allez un petit peu plus loin dans le texte, Dieu va lui annoncer la sentence. Dieu va lui annoncer la sentence. Et même là, bah, il va contester la sentence. Regardez, Genèse 4, Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Vous voyez, il conteste encore, il persévère encore dans sa mauvaise attitude, dans sa non remise en question. Il conteste, mon châtiment est trop grand. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Vous voyez, c'est il n'y a aucune remise en question, il n'y a rien. Il est dans une espèce de mauvaise persévérance, il continue inlassablement. Et ça, c'est terrible, voyez. C'est terrible. Et je me dis combien de Caïn aujourd'hui. Il n'est pas très encourageant, le pasteur, ce matin. Ouh. Mais il faut... Quoi qu'il y a des... ces choses-là, elles sont là pour notre instruction. Parce que Dieu nous aime. Et parce que si Dieu nous invite à persévérer dans certaines choses, et gloire à Dieu quand on le fait, mais il y a d'autres choses dans lesquelles il faut surtout pas, il faut s'arrêter, quoi. Et Caïn, il est là, il est en train de prendre un mauvais chemin, et Dieu lui parle, et Dieu lui parle encore, et il continue, et il justifie, il ne se remet pas en question, il remet les autres en question, il remet même Dieu en question. Et je me dis, mais c'est terrible, et si... Et si peut-être ce matin il y a un Caïn au milieu de nous, mais j'aimerais t'inviter, mon frère, ma sœur, à dire, mais Seigneur, c'est vrai, la parole de Dieu est là pour nous éclairer. Des fois on n'est pas conscient, vous voyez, parce que justement on se justifie et on trouve toujours des arguments. À un moment donné, mais Seigneur, il vaut mieux capituler devant Dieu. C'est tellement mieux de capituler devant Dieu que de toujours trouver des... Vous voyez, toujours chercher des excuses, toujours chercher des prétextes, toujours chercher des... Vous voyez, oui, mais ceci, oui, mais cela. Mais c'est Caïn, ça. Mon châtiment est trop grand. C'est Dieu qui le dit. Mon châtiment est trop grand. Il le dirait, à la limite, il le dirait à un homme. Fût-il un homme de Dieu. On pourrait dire, ouais, c'est un homme. Mais là, c'est à Dieu. Conteste même avec Dieu. C'est grave. C'est grave. Mauvaise persévérance. On pourrait parler aussi d'amertume, de rancœur. De toute cette famille-là. Les cousins et les cousines de cette famille-là, vous voyez. Amertume, rancœur, jalousie, enfin, je ne sais pas moi. Il y en a des cousins là. Il y en a des cousins dans cette famille. Elle est très élargie, cette famille-là. Et je me dis, mais combien de personnes et de croyants inconsciemment persévèrent avec ce poison-là. On reste dans ce poison-là. On persévère dans ce poison-là. La Bible nous invite à sortir de ça. Je pense à ce verset que vous connaissez, Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Et derrière, vous êtes là, vous êtes en train de dire, qu'est-ce qu'il veut dire l'auteur? Et derrière, il explique sa pensée. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Et puis derrière, vous avez l'histoire d'Ésaü. Vous voyez? Mais il y a des gens et même des croyants, mais ils se pourrissent la vie avec toute cette famille-là d'amertume, de rancœur, d'animosité. Alors souvent, bien sûr, on se dit, mais ouais, mais tu sais pas tout. Si tu savais ce qu'il m'a dit, ce qu'il a fait, et ceci et cela. Enfin, moi je sais une chose, c'est que Dieu le sait. Hein. C'est ça le plus important. Et croyez-moi, Dieu oublie rien. Croyez-moi, Dieu oublie rien. Si même les hommes, eux-mêmes, peut-être parfois ceux qui ont fait du mal, qui ont dit des choses, qui ont fait du mal, eux, ils ont oublié. Marrant, il y a des choses qu'on oublie vite. Hein. Dieu, lui, l'a pas oublié. Sauf que quelque part, c'est plus notre problème. Mon problème à moi, c'est mon cœur. Ça, par contre, c'est mon problème à moi. Voyez. Et puis je pense à l'apôtre Paul qui va dire dans Romains 12, mais ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. À moi, pas à nous. Pas à nous. À moi, dit le Seigneur. Vous voyez, c'est le Seigneur qui fera justice. C'est le Seigneur qui fera ce qu'il a à faire en son temps, quand il veut. Et si ce n'est pas ici-bas, ça sera là-haut. J'en sais rien comment il va faire. Mais croyez-moi, il va bien se dépatouiller de tout ça. Il va bien se débrouiller de tout ça. Mais de grâce, ne persévérons pas dans l'amertume, dans la rancune, dans l'animosité, etc., etc. Et toute cette famille-là avec tous les cousins qui vont derrière. Ne persévérons pas dans ça parce qu'on ne se rend pas compte que le premier qu'on empoisonne, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Voyez, le premier qu'on ligote, c'est nous-mêmes. L'autre, l'autre dit ouais, mais l'autre il est bien. Sauf que toi, tu t'empoisonnes tout seul. Et tu dis oui, mais c'est justifié. Peut-être que c'est justifié. Mais en attendant, tu t'empoisonnes toi. Et tu vis pas. Et tu apprécies pas. Et tu reçois pas tout ce que Dieu voudrait te donner. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. On ne se rend même plus compte qu'on est en train de se priver de la grâce de Dieu. Parce que même quand Dieu veut nous bénir, on ne l'apprécie pas. Quand Dieu veut nous visiter, on ne l'apprécie pas. Vous voyez ? Parce qu'on est dans une espèce de persévérance, dans une mauvaise direction à ce niveau-là. Et peut-être ce matin, c'est l'occasion. Et c'est sérieux cette affaire. Hein. C'est sérieux cette affaire. Je me rends compte avec les années que ce qui pourrit bien des vies d'église, c'est ces choses-là. C'est pour ça que c'est important d'amener son cœur au Seigneur et de dire « Mais Seigneur, délivre-moi. » Et Seigneur, écoute, je ne veux plus m'occuper de cette affaire. C'est toi qui vas t'en occuper, c'est toi qui vas juger, c'est toi qui feras, c'est toi qui sais, c'est toi qui connais. Moi, Seigneur, je veux m'occuper de mon cœur. Mais de grâce, ne persévérons pas dans cette direction-là, de dire, oui, tant que ce ne sera pas, tant que c'est... Hein, mais ce n'est pas à toi à le faire, c'est au Seigneur à le faire. Si le Seigneur veut justifier, après, ce sera à sa manière. Ce sera à sa manière. Mais il le fera. Il le fera. Mais toi, libère-toi de ça, parce que sinon tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas t'éteindre. Tu vas rien vivre. Tu vas t'assécher. Voyez, et c'est tout le sens de ce verset. Voyez, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons. Voyez, ça produit quoi? Ben, ça produit rien de bon. Ça produit du trouble et en plus, c'est en train d'infecter les autres. On est en train d'infecter les autres autour. Voyez, c'est terrible. C'est comme du chien dedans. Voyez. Moi, j'aime dire, Seigneur, je t'apporte mon cœur parce qu'on est tous pareils. Quand on nous a fait du mal, on nous a fait du mal. Hein. Bienvenue au club, on t'a fait du mal, bienvenue au club. Hein. Voyez, si je vous fais lever la main ce matin en disant, qui a vécu ça, tout ça, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de mains qui ne vont pas se lever parce qu'on a tous vécu ça, ce genre de situation, consciemment ou inconsciemment. Des gens parfois nous ont fait du mal inconsciemment. Bon, mais ça, c'est une chose. Mais parfois, c'est... Mais Seigneur, je veux garder mon cœur. Je ne veux pas persévérer dans quelque chose qui quelque part, de toute façon, ne sera pas bon, même si je le justifie avec des arguments. Ça a déjà été dit, hein, on a déjà entendu des choses. Même si tu as tous les dossiers, c'est au Seigneur. Hein. Moi, je ne veux pas être un homme de dossiers. On va sortir les dossiers. Ouais. On va sortir les dossiers. Puis il y en a, ils sont courts à court. Ils sont... Oui, Seigneur, les dossiers, c'est toi qui les gardes, c'est toi qui t'en occupes. Mais moi, je veux m'occuper de mon cœur, de ma relation avec toi, de ma communion avec toi. Parce que sinon, ma communion, dans quel état elle est? C'est pas que j'aime pas le Seigneur, c'est pas que... Mais il y a comme un obstacle qui est là. Seigneur, je t'apporte mon cœur ce matin. Peut-être ce matin, le Seigneur veut t'encourager, mon frère, ma sœur. Il n'est pas là pour te juger, mais peut-être à juste titre, tu es en souffrance. D'ailleurs, souvent, quand on est là dans l'amertume, on est en souffrance. On est en souffrance. Donc c'est pour ça que je le dis vraiment. Je veux pas être léger avec ça. Je veux pas paraître jugeant, méprisant, parce qu'on est souvent on est en souffrance. Mais t'inquiète pas, le Seigneur, il s'en occupe. Le Seigneur, il t'en occupe. Hein. Vous lisez dans la... Bon... Heureusement, on est sous la grâce. Mais relisez, moi je souris des fois. Vous relisez les psaumes, des fois, il y a des psaumes. Casse-leur les dents. J'invente rien, c'est écrit. Hein. Casse-leur les dents. Tu dis, ouh. Et puis en même temps, je me dis, oh ben ça va, Seigneur, finalement. Des fois, j'ai des réactions, c'est pas bien. Bon, après, on se reprend, on dit, Seigneur, pardonne-moi. Mais vous voyez, quand vous lisez les. J'ai pas noté les références, mais des fois, vous lisez des choses, vous dites, ouh, ben, hein. Casse-leur les dents, vas-y, machin. Vous dites, bon, voyez, mais Seigneur, je veux t'apporter mon cœur, je veux pas persévérer dans quelque chose qui est pas bon. Voyez. Le diable viendra toujours te dire, tu as raison, c'est normal, tu vois, c'est pas normal. Qu'importe qui a raison, qui a tort, Seigneur, moi, ce que je veux, c'est marcher avec toi fidèlement jusqu'au bout. Voyez, la persévérance, il y a la bonne, mais il y a la mauvaise. Alors, je vais m'arrêter là, je ne veux pas être trop long ce matin, mais j'aurais pu vous citer des tas d'autres exemples où on voit de la mauvaise persévérance. Mais c'est pas possible, mais arrête-toi, vous voyez. Et souvent, ça a mal fini. Et ce matin, je ne sais pas où on en est avec le Seigneur. Je ne sais pas où tu en es avec le Seigneur, dans ta marche avec le Seigneur. Mais je t'en supplie, si tu sens le Saint-Esprit qui, d'une façon ou d'une autre, met le doigt dans quelque chose ou sur certains aspects, en te disant, mais arrête. Tu vois, là, cette attitude, là, cette façon de faire, cette façon de regarder, arrête, là, ce sentiment-là, etc. Mais ne persévère plus là-dedans. Mais bénis Dieu, et dis Seigneur, mais viens, secours-moi. Mais c'est pour toi que le Seigneur te le dit. C'est pas pour t'embêter. Et je crois que c'est important, et peut-être c'est l'occasion ce matin de crier à Dieu, dire Seigneur, c'est vrai. Après tout, je laisse tomber. Vous savez que c'est bon de laisser tomber. Je laisse tomber, allez, je laisse tomber. Seigneur, tu t'en occupes. Et vous savez quoi? Dieu s'en occupe bien. Quand on laisse tomber, déjà on se sent beaucoup plus, voilà, léger. Et puis on se remet à marcher avec Dieu, on se remet à avancer. Alors peut-être je voudrais dire de la part du Seigneur à quelqu'un, laisse tomber, laisse tomber, laisse le Seigneur s'en occuper, laisse le Seigneur gérer. Il va bien le faire, crois-moi, il va bien le faire. Mais toi, occupe-toi de ton cœur, de ta relation avec Dieu, ta communion avec Dieu. Et peut-être capitule, voilà, dire ben, Seigneur, je m'occupe plus de cette affaire, je m'en occupe plus, voilà, j'ai trop voulu dedans, mais ce matin je veux vraiment te dire Seigneur, secours-moi. Et ce matin c'est l'occasion d'être là devant Dieu et de dire Seigneur, ben peut-être c'est vrai, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de mon énergie, j'ai perdu bien des choses là en voulant à tout prix faire par moi-même, ou ben, Seigneur, maintenant je persévère plus là, je te laisse faire, et vous allez être surpris de ce que Dieu va faire. Et peut-être que c'est justement ça qui va permettre à la situation de se dénouer. C'est peut-être ça qui va permettre à une porte de s'ouvrir. C'est peut-être ça qui va permettre... Et alors que ça fait peut-être des semaines et des mois qu'on est là à batailler, et peut-être tout d'un coup, touc ! Parce que le Seigneur aura posé sa main. Pourquoi ? Parce qu'on aura arrêté de vouloir faire nous, de persévérer nous, on aura laissé faire le Seigneur. Et dans tous les domaines, quand on laisse faire le Seigneur, c'est tellement mieux fait. C'est tellement mieux fait. Je voudrais t'encourager ce matin. Je voudrais pas que ce soit pris dans le mauvais sens. Mais vraiment qu'on puisse dire, Seigneur, secours-moi. Je ne veux pas persévérer dans des mauvaises pensées. Je ne veux pas persévérer dans des mauvais sentiments. Je ne veux pas persévérer dans une direction qui n'est pas la bonne. Seigneur, je veux te faire confiance. Simplement, Seigneur, tu vois, il s'est passé telle et telle chose. Je ne veux pas. Voilà. Je te laisse régler. Autant que cela dépende de vous. Alors Seigneur, moi, pour ma part, je veux vraiment marcher avec toi de tout mon cœur. Et je te laisse gérer. Et Dieu va nous aider. Et Dieu va nous aider. Alléluia. On prie le Seigneur. Demande de nous aider. Alléluia. Seigneur, ce matin, je me sens bien limité, bien petit devant toi. Mais Seigneur, si tu nous rappelles ces choses, tu les remets devant nos yeux. C'est parce que Seigneur, tu veux nous amener plus loin. Je te prie pour mes frères, pour mes sœurs et pour moi-même. Et je me mets dedans. On est tous pareils. On est tous dans le même bateau, Seigneur. Seigneur, combien de fois, Seigneur, on n'a pas persévéré là où il aurait fallu, et combien de fois là où il aurait fallu ne pas persévérer, on l'a fait. Alors Seigneur, donne-nous, Seigneur, de la lucidité spirituelle, donne-nous de l'intelligence spirituelle, donne-nous du discernement spirituel pour faire les choses selon Dieu, pour faire les choses comme toi tu l'entends, Seigneur, pour faire vraiment, Seigneur, ce qui te plaît, ce qui t'est agréable. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où ça n'a pas été ça, Seigneur, où je ne t'ai pas laissé faire, Seigneur. Et si peut-être quelqu'un ce matin est en souffrance, parce que je réalise que derrière tout ça, il y a de la souffrance bien souvent, Seigneur, je te demande vraiment de bénir son cœur, de bénir les cœurs blessés, de bénir les cœurs meurtris, Seigneur. Qui mieux que toi peut s'occuper d'un cœur, Seigneur? Alors à toi la gloire. Tu as dit que, Seigneur, tu étais venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors, Seigneur, merci parce que tu t'occupes du cœur de mon frère, du cœur de ma sœur, peut-être de quelqu'un qui est là ce matin et qui peut-être ne sait plus comment faire. Seigneur, bénis-le, Seigneur. Mais aide-nous, Seigneur, à marcher dans la bonne direction. Seigneur, aide-nous à te faire pleinement confiance. Aide-nous, Seigneur, à te laisser faire, à te laisser agir comme toi tu l'entends. Je ne veux pas être comme Asa, mal finir. Seigneur, je ne veux pas être comme Caïn, Seigneur. Je ne veux pas être comme ces exemples qu'on a vus dans ta parole, Seigneur. Mais Seigneur, je veux vraiment te dire, Seigneur, oui, enseigne-moi à faire ta volonté comme toi tu l'entends, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Je te le demande dans le nom de Jésus. Seigneur, à toi la gloire, Seigneur. Amen. Amen.